Vous avez une toile qui est une mise en dérision du mythe Blanche-Neige et les sept nains. Votre toile, c'est Blanche-Neige et les sept nègres.
Oui. Mais Blanche-Neige et les sept nègres, c'est une toile que j'avais exposée à New York. Et le moment que Max Roach et Abby Lincoln s'étaient mariés, c'était un moment 2 jours avant la fin de l'exposition. Donc, ma ex-femme Turin était là. Je l'ai fait déménager toutes les toiles de la galerie, l'exposer dans l'église où Max était marié, Max et Abby Lincoln se mariaient. Et après ça, je lui ai dit, ben, tu prends Blanche-Neige et les sept nègres et tu le laisses à Max, c'est un cadeau de mariage. Le toile, il est très simple, il est 2 mètres de large et 1 mètre de haut. Et il y a 7 paires des pieds noirs, des pieds des nègres, avec les chaînes autour. Et dans le coin de la toile, il y a un fusil. Et ça, c'est Blanche-Neige et les 7 nègres. Il y a 7 nègres en chaîne. Et avec les nègres enchaînés, ils doivent être Blanche-Neige qui tient le fusil. Hein.
Donc c'est un peu sans fin, cette histoire.
Vous avez lu Chester Himes?
Ben oui, je crois qu'on est nombreux à avoir lu Chester Himes il y a très longtemps même. Et
Nelsia Delanoë.
Moi, c'était un peu un bouleversement hein, quand j'ai lu. Je crois que le premier que j'ai lu, c'était La Reine des Pommes. Enfin, ça s'appelle comme ça en français. J'en revenais pas de du. Moi, c'est comme ça que j'ai connu les États-Unis. C'est d'abord par la littérature et par exemple quelqu'un comme Chester Himes. J'en revenais pas de la formidable verdeur, intelligence. Ça pullule de vie, d'horreur, d'humour, de. J'ai trouvé ça passionnant et tellement ironique, tellement cinglant, tellement tonique, et en même temps tellement funèbre, sinistre. Il y a tout là-dedans. Les 4 dernières années de présidence Reagan n'ont pas arrangé par ailleurs ni le sort, ni le statut des Noirs, particulièrement des jeunes, qui sont les plus touchés, statistiquement, massivement. Et effectivement, les mentalités évoluent tellement encore plus lentement que la loi qui est censée à la fois refléter les modifications des mentalités et contraindre celles-ci aussi à se bouger un peu, que je crois que le terme de coriace est important. Il dit bien cette résistance. Mais on peut dire qu'en France, les ravages de la xénophobie sont tels depuis quelques mois que, pour des raisons différentes, historiquement différentes, je ne voudrais pas commencer par jeter la pierre. Je voudrais vraiment, au-delà du nationalisme et des chauvinismes, effectivement protester contre ce retour du refoulé, en tout cas, ou du si peu refoulé qu'il affleure très vite dès qu'il y a des tensions, ce qu'on appelle la crise. et dire que je crois que certains Noirs aux États-Unis sont peut-être mieux armés que pour lutter, pour résister à cette très mauvaise passe dans laquelle ils sont, que les Turcs ou les Sénégalais ou les Maliens ou les Arabes qui en ce moment sont en France, malgré les propositions légales de bien traiter tout le monde. L'esclavage, c'est quelque chose que nous avons pratiqué à l'extérieur de l'Hexagone. Et sous sa forme, 19e siècle, c'est-à-dire celle du colonialisme, donc c'est particulier. Les États-Unis l'ont pratiqué sur leur territoire, sous sa forme classique, c'est-à-dire celle des fin 17e, et sont confrontés au fait que c'est sur leur propre territoire qu'ils ont à la fois pratiqué l'esclavage et la destruction des peuples autochtones, les Indiens, qui sont les deux dimensions, je crois, qu'il faut réintroduire. C'est-à-dire on a arraché des gens à leur terre pour leur faire travailler la terre de gens qu'on exterminait. Alors là, les paramètres sont beaucoup plus compliqués et méritent d'être explorés avec beaucoup, beaucoup de nuances et de précisions historiques pour bien cerner la spécificité de l'histoire américaine, je crois. Parce que les paramètres sont au moins triples, rouge, noir, blanc, sans parler de homme, femme, par exemple.
Je vais me limiter à un chat, là.
Il est blanc, non ?
Ah, il est... Elle le caresse. Ce sont ses jambes.
Yvonne et Yves Malartic.
Elle le caresse, je vois pas sa tête tellement bien. Il faut mettre la date sur la photo.
Personne ne met les dates sur les photos après.
C'est terrible.
On trouve des photos, on ne sait plus de quand elles sont. On ne sent... Et quelquefois, à notre âge, on ne sait même plus qui elles représentent, ces photos. C'est affreux.
Ça ne réveille pas les souvenirs parce qu'il manque la date. Mais cette photo n'a pas de date non plus. Ah
la
si
dédicace, oui.
56, Paris.
C'est l'écriture de Chester Hines.
Ah oui, oui, oui. Ah oui.
Et qu'est-ce qu'il a écrit, là ?
Pour Yves et Yvonne, du triste, triste moi, simplement trop triste pour l'exprimer en parole. 56, oui, je vois très bien quelle année c'est. C'était après, longtemps après son arrivée, il est arrivé en 53. La première lettre est de 51. Son séjour à Arcachon, c'est 53. Il a passé pas mal de temps en Espagne. 56, février 56, c'est la URSS. C'est là, la petite imprimerie où il venait me voir de temps en temps le soir avec la môme Marlène. Marlène de la, des mémoires et Régine de nos souvenirs.
Chester Himes a un rapport assez ambigu avec Paris. Est-ce qu'il aimait Paris ?
Eh bien, j'ai eu l'impression qu'il n'aimait pas Paris, en tous les cas, qu'il ne ferait pas grand-chose à Paris. J'ai eu tort, parce qu'il a beaucoup travaillé à Paris. C'est pourquoi j'ai envoyé à Arcachon. Himes est un de ces hommes qui n'est bien nulle part. Il y en a. Il n'était pas bien à Paris. Il a été bien à Arcachon parce que c'était une nouveauté puérile. Très amusant, une petite villa très modeste. Il y avait aussi le canot à voile. Nos amis qui lui rendaient visite, qui étaient des gens très bien, de très bons amis, qui le considéraient comme, il le dit d'ailleurs, le docteur T, s'intéressait à quiconque était capable de création. Il avait affaire à un écrivain, le docteur T était enchanté et envoyait son fils promener Himes dans la région. Bégaud, qui est l'auteur de ces petits tableaux-là, s'intéressait aussi à Himes parce que c'était mon copain. Il a été heureux là quelque temps, il a dû être heureux ailleurs.
Je dois avouer que pendant les 5 ans où j'écrivis les 6 premières histoires de brigands pour la série noire, je parcourus l'Europe en quête d'endroits qui me conviendraient. On m'aida beaucoup. Je ne m'en rendis compte que par la suite. Marlène me fut indispensable, mais ma jalousie nous rendait aussi malheureux l'un que l'autre. Je ne fus jamais à l'aise nulle part, en grande partie parce que je fus incapable d'apprendre la langue des pays où nous habitions, et aussi parce que je détestais tous les blancs. Je vivais sans aimer personne, ni blanc ni noir, avec une jeune femme que je soupçonnais tout le temps d'infidélité. Mais j'avais le cerveau en ébullition. J'écrivais comme les oiseaux chantent.
C'est vers 67-8 que se situe son désir d'abandonner le genre policier, parce qu'après tout, il avait plus ou moins fait ce que lui demandait Duhamel, et de se tourner vers l'autobiographie.
Michel Fabre.
Il a commencé à écrire vers 67-68 son autobiographie. Au début, il la voyait, c'est assez intéressant, parce qu'il la voyait comme 3 femmes. Liées aux femmes qu'il a connues, 3 grandes périodes de sa vie gouvernées par 3 femmes. La première, c'était Willa, celle dont nous avons parlé, les années 50. La seconde, c'était Régine, celle qu'il appelle Régine, une Allemande, une jeune Allemande avec qui il a vécu assez longtemps pendant les années 60, fin des années 50, début des années 60. Et la troisième, c'est Leslie, sa femme, on pourrait dire légitime et actuelle, l'anglaise, avec laquelle il vit toujours.
Il parle très longuement de Marlène, que vous connaissiez très bien. Et il a eu énormément d'histoires et de petits problèmes avec elle. Et souvent, avec Ton, votre compagne d'alors, vous veniez chez lui dans sa chambre d'hôtel et il vous racontait ses malheurs. Et il raconte qu'un jour, vous vous êtes allongé sur le lit et vous avez commencé à dormir alors que lui continuait à parler.
Oui, mais je suis capable de dormir à n'importe quelle circonstance. Et vous savez, Chester, c'est un homme très sensible et très fragile aussi. Et il a une grande expérience dans la vie, très variée. Et parfois, c'est nécessaire pour lui de d'en expliquer cela, mais quand il faut que je dors, je dors. Et peut-être une autre fois, c'est moi qui commence à parler pendant 3 heures sans arrêt. Et il a mieux fait de dormir, parce que le fait que sortent les choses dehors de moi-même. Les femmes étaient importantes et nécessaires pour Chester, comme je crois que sur le plan sexuel, elles sont importantes et nécessaires pour tout homme normalement constitué. peut-être, je devais dire, abnormalement constitué, mais la présence féminine devient très importante quand il est absent. Et on déconne souvent quand il est présent. Chester, il écrit un livre une fois de... Je crois que ça s'appelait La fin d'un primitif.
La fin d'un primitif.
Mm-hmm. Et où l'héros tue quelqu'un là-dedans. Mais c'était autobiographique aussi, hein? Parce qu'il a failli tuer Wendy Haygood. Wendy Haygood était la femme qui dépensait des millions. Des millions. Elle administrait un fonds de le vieux Julius Rosenwald qui a laissé tout son argent pour aider les Noirs américains dans les arts.
Puis après, il y a eu Marlène.
It cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired you bet. All of this I'll soon forget with my man. He's not
Marlène, Marlène, Régine, que vous voulez appeler, une fille qui, le père était un éditeur, quelque chose, était allemande.
Oui, il avait une librairie, il y avait une galerie d'art.
Oui, oui, mais Régine et Chester, c'était une sorte de guerre. C'est-à-dire que je crois qu'il tapait là-dessus comme c'était son tambour. Il tapait dessus. Mais j'ai jamais compris la relation. Jamais compris la relation. D'ailleurs, il marchait, il marchait pas. Il y avait plusieurs autres femmes au même moment dans la vie de Chester. Que je trouvais plus sympathique, peut-être. Marlène ne m'adressait pas. Ça durait un bon temps. Donc, il devait avoir eu les choses entre eux qui le tiraient vers l'une ou l'autre.
Et il débarque chez vous. Dans la cuisine, Walter préparait des haricots rouges avec un jambonneau. Il y mit tant de piments que tous ceux qui en mangèrent eurent la bouche en feu. Dès qu'il en eut l'occasion, il me demanda à demi-voix « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Parce qu'elle avait des bleus partout, oui. « Rien, » répondis-je. « Je veux seulement m'assurer qu'elle se tiendra tranquille. »
Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. Ça, c'est le caractère de Chester. Ça se passe exactement comme ça. Hein. Je me souviens comme si c'était hier. Je me demande, mais tu l'as tapé là-dessus, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Si cette vie-là a été la vie qui vivaient Chester et Marlène, c'était leur problème, pas le nôtre. C'était pas sur cette histoire-là que je veux juger la valeur comme homme ou écrivain de Chester Himes. Point, c'est tout.
I got to be a rugged up so I can swing out in the groove. I got to be a rugged up so my job will improve. I was so untrucky, but now I'm super ducky. Gonna cut back a figure, soak it, I'll dig ya. I got to be a rugged up, swing out in the groove. A do wee wee up to wop to wop, a leg a lamp to lap to lamp, a rap da da do ra do. I gotta be a road cutter. Do wee wee up to wop to wop, a leg a lamp to lap to lamp, rap da da do ra do. I gotta be a road cutter. Yeah yeah.
Da 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 da.
What a dee da da da. Woodley poo.
Wa da da da.
Wah ooh wah hey. I got to be.
I got to be.
On peut dire qu'il se plaint, ou du moins il dénonce l'injustice raciale. Mais on retrouve très souvent cette résolution de sa part de ne pas se plaindre, de dire bien, l'injustice raciale existe. J'en ai été victime, mais mon destin, c'est quand même moi qui l'ai fait. Donc, si à certains moments j'ai fait des erreurs, c'était moi qui faisais les erreurs, et je ne veux pas me présenter comme victime irresponsable. Je crois que c'est intéressant, ça. C'est peut-être une des teneurs de son autobiographie, montrer que chacun est responsable de son destin. Et la deuxième chose, qui se retrouve dans les titres, le premier titre s'appelle « Quality of Hurt », et c'est tiré de Shakespeare. Le premier volume insiste davantage, je crois, sur la façon dont la blessure que crée le racisme affecte le noir et lui permet de créer une sorte de contre-culture. Et la seconde s'appelle « Life of Absurdity » et il commence en citant Camus, ou du moins en faisant une vague référence à Camus, parlant de l'absurdité. Et là, il insiste beaucoup sur l'aspect absurde d'un destin en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la chance vous sourit, il y a des moments où elle vous tourne le dos, et on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop à quoi tient le succès, on ne sait pas trop ce qui régit telle ou telle rencontre qui sera bénéfique. Donc, d'une à l'autre, je crois que l'accent est déplacé d'une notion de responsabilité sociale à une notion de les choses sont comme ça, un peu à quoi bon.
Life is so peculiar. You get so wet in the rain. You know it too. You get so warm in the sunshine.
Get my suntan. It doesn't pay to complain.
I never complain. When I get up each morning, there's nothing to breathe but air.
Yeah, and when I look in the mirror, there's nothing to comb but hair.
And when I sit down to breakfast, there's nothing to eat but food.
Life is so peculiar, but you can't stay home and brood.
Oh, life!
Tell them about it, Pops.
It's so peculiar. The desert's only got sand,
and
you know.
That's grand.
The ocean's only got water.
And you can't drink it all up.
You never know where you stand.
Il aime beaucoup aussi les voitures, Chester Himes. Au début, à Paris, il arrivait d'en avoir une. Il a mis assez longtemps pour en avoir une. Et quand il finit par avoir les moyens de se payer une voiture, il se fait arnaquer avec cette Volkswagen qui est un véritable gag.
Le Volkswagen, il n'y a rien de mal avec le Volkswagen. C'est Chester qui... C'est une blague. Moi, je me souviens de cette Volkswagen parce que, tu sais, Chester est venu vivre à la Antibes, sur le rempart, dans la même maison que moi j'avais eu avant. Et parce que Marcel Duhamel avait la maison à côté. Et Chester, avec cette Volkswagen, Chester a toujours des problèmes avec les voitures. Il avait un Hillman une fois, il avait cette merveilleuse chienne Mikey. Vous savez, je vais expliquer ce qu'il avait. Mikey, une chienne qui était grande et beau, c'était un setter irlandaise. Tu sais, grande comme ça. Et Mikey, c'était le chien de Chester. Chester l'amenait avec lui partout où il allait. Donc, il était dans l'arrière de la voiture une soir. Et Chester était sur la route au sud de Paris, roulant à peu près 80 à l'heure. Complètement endormi, il gênait personne. Il était là, 80 à l'heure, endormi, le chien derrière. Et juste à ce moment, une platane a décidé de traverser la route. Bien sûr, il est entré plein dans la platane et se trouvait dans l'hôpital, Chester. Et les gens avaient pris son chien, Mikey, et donné à une femme qui avait une auberge là, juste près de où il avait l'accident. Donc, Leslie est venu chercher Chester, il est sorti de l'hôpital, et les Hillman étaient tout foutus. Et c'est là où il a pris cette Volkswagen. Mais là, il est allé chercher son chien. Et il est entré pour prendre son chien, le chien l'a mordu. Mikey l'a mordu. parce que c'est Mikey avait poussé, je ne sais pas ce que c'est comme aberration sexuelle, mais il avait même vidé le mari de la femme. il dormait dans le lit avec la femme. Maggie a vidé son mari. Et quand Chester est venu le reprendre, il a mordu Chester. Donc, il a perdu son chien, là, à ce moment.
Quand il a quitté l'Amérique, il a acheté une malle de bateau de toute beauté. Elle était doublée de moire rose, je l'ai vue par la suite. Et cette malle, une malle de bateau, c'est lourd déjà même quand c'est vide. Alors à Paris, quand il est arrivé à Paris, mettre cette malle sur un taxi, c'était déjà énorme. La faire monter à plusieurs étages dans les hôtels où il allait.
Il a changé c'était d'hôtel, un... il a changé plusieurs fois d'hôtel.
Il changeait d'hôtel, alors chaque fois qu'il changeait d'hôtel, cette malle, c'était un souci de tous les diables. Finalement, elle a atterri, cette malle, dans notre cave à Paris.
Vous savez ce que c'est, une malle de cabine? Mais non, vous ne savez
une
pas.
Une malle, elle est plus haute que moi. Elle est grande comme ça. Avec des cintres pour mettre les complets.
D'un côté.
Et puis des tiroirs pour mettre la lingerie, etc. C'est une véritable armoire. Et alors c'était un souci constant, cette malle, pour lui. Chaque fois qu'il déménageait dans Paris, et tout le temps il déménageait. Finalement, quand nous-mêmes nous avons vendu notre appartement de Paris pour rester ici, nous avons emporté cette malle ici. Il ne faut pas la laisser à Paris parce qu'il
tenait. On ne pouvait pas l'abandonner.
Ça, on ne pouvait pas abandonner sa malle.
Une malle qui n'appartient plus.
Et puis finalement, nous avons manqué de place ici. Cette malle, un jour, nous l'avons posée au bourrier, enfin devant la porte, pour que le bourrier emporte la malle.
Par moi, les éboueurs emportent tout.
Alors, nous avons mis la malle dehors. Et une voisine, la garde-barrière, là, qui est une jeune femme charmante, c'était la mode des mâles. C'est encore la mode d'avoir des belles mâles. Hein. Elle dit, oh, vous jetez cette malle, c'est dommage, moi je voudrais bien m'en servir si vous voulez me la donner. Si vous voulez me la vendre. Je dis, ma pauvre Aline, emportez cette malle, vous nous débarrassez, puisque nous la mettons au bourrier, nous n'avons pas besoin de... Alors, elle est là, elle s'en sert, elle a mis dedans toutes les poupées de sa petite fille et les affaires, les vêtements de poupées, voilà. Alors la malle de Haim, cette malle qui
lui a donné... La malle au trésor.
La malle au trésor, cette malle qui lui a donné tant et tant, tant de soucis, elle existe encore et elle est à Nogaro, chez la garde-barrière, et elle contient des affaires de poupées, des poupées et des vêtements de poupées, voilà.
Du côté de chez Himes, chapitre 5, Exil, avec Walter Coleman, Nelsia Delanoë, Yvonne Malartic, Yves Malartic, Michel Fabre. Texte dit par Gordon Heath et Jean-Michel Foucault, extrait de Regret sans repentir, Gallimard, Affaire de viol, édition des autres. Nelsia Delanoë est l'auteur de Détroit, Marché Noir, Casterman, L'Entaille Rouge, Maspero. Deux romans de Chester Himes viennent d'être réédités en 10-18, Mamie Mason, collection Domaine étranger, Retour en Afrique, collection Grand Détective. Dernier roman inédit de Himes, Plan B, édition Lieu commun. Fin donc de la double série Hitchcock-Himes, Laura Adler et Josette Collin vous ont présenté ce soir la fin de la vie d'Alfred et les plaisirs hitchcockiens. Nuit magnétique, Daniel Bizien, Pamela Dousseau, Jean-Claude Charles.
Maintenant, il faut grandir ses enfants au lit.
Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 février 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
nyanum se uma bwa u kason yo me mudeng nyung ayi kason yo me mudeng nyung
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La révolution russe, ce n'était pas encore de l'histoire ancienne, c'était du passé vivant. Du moins, on en parlait ainsi en 1952, et l'on citait Trotsky, Kerensky et bien sûr Lénine. Kerensky, ce n'était pas un homme à lutter contre un homme comme Lénine. Lénine et Trotsky, à une époque, on les considérait comme des révolutionnaires de parlotte. Non, ça ne pouvait pas durer. Mais il y eut d'autres points de vue sur Lénine. Lénine, un théoricien, un dirigeant d'un optimisme à toute épreuve. Et Staline ? Bah, en octobre 17, il n'existait guère. Un homme de main, tout au plus. La vie en rouge, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 16 novembre 1952.
La radiodiffusion française présente un documentaire sonore, La vie en rouge, une production de Jean Castet avec Jean-Claude Yo, Gaëtan Jor, Jacques Mancier, Pierre Olivier. Assistante de production Marie-Madeleine Dujon, réalisation René Villemet. La révolution d'octobre.
Vous savez, j'ai suivi avec intérêt.
Oui, qui êtes-vous?
Je suis le français moyen.
Ah.
J'ai suivi avec intérêt toutes les manifestations commémoratives de la révolution russe. Je suis allé au Veldiv le soir du 7 novembre, à la salle Pleyel le lendemain. Je n'ai pas entendu parler de Trotsky. Et vous, dans votre émission historique du 2 novembre, vous nous présentiez Trotsky comme un personnage réel. Vous lui donniez même un rôle très important, tout à côté de Lénine. Qu'est-ce que c'est que ce Trotsky? Un héros de légende? Un mythe? Vous l'avez inventé pour distraire le pauvre monde.
Alors, excusez-nous, nous avons la faiblesse de croire que Trotsky a réellement existé. C'est peut-être parce que nous nous en tenons aux documents.
Le gouvernement Kerensky était un cadavre qui n'attendait que le coup de balai de l'histoire.
Qui est-ce?
Un certain Trotsky. Président du Soviet de Petrograd, 7 novembre 1917.
Des troupes du front s'avancent vers la capitale. Ce serait un crime de ne pas envoyer des commissaires révolutionnaires par tout le pays pour expliquer aux masses populaires les événements.
Vous préjugez de la décision du Congrès pan-russe des Soviets ?
La volonté du Congrès pan-russe des Soviets est préjugée par le fait retentissant du soulèvement des ouvriers et des soldats de Petrograd, qui a eu lieu cette nuit.
À cette séance extraordinaire du Soviet de Petrograd, le 7 novembre, la parole est donnée à Lénine, à Trotsky, à Zinoviev, à Lunatcharsky.
Et Staline?
On ne lui demande pas son avis. Discours de Lénine.
Le nouveau pouvoir fera tout pour faire cesser la guerre. Nous ne disons pas qu'on peut finir la guerre en plantant les baïonnettes dans le sol. Nous offrirons à tous les peuples une paix honnête et démocratique. Le russe a commencé la révolution, l'allemand l'achèvera.
Lénine se trompait.
Ah ben, comme on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas.
Et Staline ?
Staline ne se trompait pas, il ne disait rien, il ne faisait rien. On cherche vainement dans les documents de l'époque une trace de son activité révolutionnaire. Et on trouve ceci. À la veille de la manifestation de juillet, des matelots de Kronstadt téléphonent à la Pravda pour savoir s'ils doivent défiler avec leurs fusils. Staline répond, les fusils ? C'est à vous de voir, camarades. Nous autres, écrivassiers, traînons toujours notre arme, le crayon. Quant à vous, avec vos armes, c'est à vous de voir. Le 7 novembre au soir, les bolcheviks ne contrôlent qu'une partie de la capitale. Les cosaques de Petrograd sont plutôt mous. On attend les cosaques du front. Le gouvernement provisoire tient toujours dans le palais d'hiver assiégé. Au Smolny, on avait attendu toute la journée la prise du palais d'hiver. D'après le récit de Podvaïski, Lénine, hors de lui, criait qu'il fallait fusiller tout le CMR qui n'était bon à rien. « Nous étions faibles », écrit Trotsky. Les bolcheviks étaient faibles, mais ils trouvaient devant eux plus faibles encore, et le courant les portait. Il a fallu pour l'avènement du bolchevisme un concours exceptionnel de circonstances favorables, une politique de suicide des classes possédantes et l'aberration tenace des socialistes conciliateurs. Le résultat final dépendait de l'armée.
Quel était l'état d'esprit des soldats ?
Ils ne voulaient plus faire la guerre. Les soldats ne réclamaient ni la terre ni les libertés. Ils ne voulaient que la fin de la guerre. Depuis plusieurs mois, les bolcheviks entretenaient des agitateurs politiques jusqu'aux premières lignes. Les délégués du front, entendus par le soviet de Petrograd, disaient « Nous voulons la paix, n'importe quelle paix, même séparée ». L'un d'eux précisait « Si c'est une paix infâme, donnez-nous la paix infâme ». Maxime Gorki écrit
« La guerre a donné le pouvoir au prolétariat ». À donner, car personne ne dira que c'est le prolétariat lui-même qui, par sa propre force, a pris le pouvoir.
Est-ce que le français moyen s'intéresse à cette histoire ?
Le français moyen vous écoute. Vous faites revivre des documents, vous animez des parchemins, ce n'est pas mal. Mais la révolution russe, ce n'est pas encore de l'histoire ancienne.
Non.
C'est du passé vivant.
Il voudrait tutoyer l'adorable Clio.
Quoi ? Ne pouvez-vous pas nous amener un témoin des événements ? Un homme vivant qui est assisté au drame. Mais... Enfin, n'y a-t-il pas dans tout Paris, en novembre 1952, un homme qui se soit trouvé sur la place du Palais d'Hiver en novembre 1917?
Ah, voici Monsieur Pierre Pascal, professeur de russe à la Sorbonne, qui était en octobre 1917 le lieutenant Pascal, membre de la mission militaire française à Petrograd.
Monsieur le professeur, quand on étudie la révolution d'octobre sur document, on est surpris du peu de résistance offerte par le régime Kerensky. Vous qui avez vu les choses, comment expliquez-vous un effondrement si rapide ?
Oui, c'est bien le mot, effondrement. Le gouvernement provisoire s'est effondré sans combat, sans scène bien spectaculaire. En réalité, la révolution d'octobre s'est faite sous Kerensky. Les paysans avaient pris la terre sans attendre la constituante promise. Les soldats avaient terminé la guerre en refusant de se battre. Les bolcheviks ont réussi parce qu'ils donnaient au peuple ce que le peuple avait déjà pris.
Vous dites que la révolution d'octobre s'est faite sous Kerensky. C'est donc que Kerensky a laissé faire, par faiblesse. Alors quelle sorte de faiblesse ? Est-ce que ce régime n'a pas témoigné, en pleine guerre, d'un excès de libéralisme ? Je veux dire, cette dégénérescence du libéralisme qui n'offre plus aucune digue aux violents.
Bien sûr, Kerensky n'était pas de taille à lutter avec un homme comme Lénine. D'un côté... un idéal de droit, de liberté, le respect des adversaires, une horreur presque instinctive de la violence. Kerensky est l'homme qui avait juré de ne jamais signer une condamnation à mort. Et de l'autre, une théorie de la violence, une volonté de s'emparer du pouvoir, une indifférence totale aux moyens.
Au printemps 1917, quand Lénine était en Suisse, exilé, banni, on pouvait lire dans le journal de Milioukov, et Milioukov était un ministre de Kerensky, on pouvait lire dans le journal de Milioukov des lignes extrêmement courtoises.
Un chef socialiste aussi universellement connu que Lénine doit entrer dans l'arène. Et nous ne pouvons que saluer son arrivée en Russie, quelle que soit notre opinion sur ses doctrines politiques.
En somme, On invitait cordialement Lénine à venir renverser le régime. On traitait Lénine avec courtoisie et libéralisme, alors que le libéralisme courtois était le dernier de ses soucis. Le jeu n'était pas égal. Est-ce que ce n'est pas là cet excès de libéralisme qui tue la liberté?
Au fond, toute cette période de Kerensky, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la liberté, c'est la licence. C'est le débordement des discours, les réunions, des meetings de toutes sortes.
Et Kerensky individuellement, comment était l'homme?
Kerensky, c'était un de ces nombreux avocats, professeurs ou écrivains, qui brûlaient de participer au pouvoir. Lui, il était plus à gauche que d'autres, tout proche des socialistes. Il faisait davantage confiance au peuple. Son tempérament, bouillant, certaines allures extérieures d'ailleurs de chef, et surtout un talent d'orateur, le portèrent au premier rang dès le début. Son talent d'orateur à Riga, je me souviens, en mai 1917. Dès le matin de mon lit, je l'entendais tenir des discours dans quelques faubourgs et ses éclats de voix pathétiques. Il les continuait toute la journée durant. Il s'agissait à ce moment-là de persuader les soldats de reprendre l'offensive. D'ailleurs, Kerensky réussit, l'offensive eut lieu, mais elle échoua.
Et devant la réussite instantanée du coup d'État, quelle a été la réaction de la mission française? Quelles ont été les réflexions de ces militaires français de 1917?
Lénine et Trotsky, figurez-vous, ces révolutionnaires de parlotte, de café parisien, au pouvoir, c'était une espèce de plaisanterie, ça ne pouvait pas durer. Et alors ensuite viendrait un gouvernement fort qui recommencerait la guerre.
On a cru qu'il s'userait au pouvoir, oui.
Oui, l'attitude des alliés en face de la révolution d'octobre, on peut se résumer en deux mots, ils n'y ont pas cru.
Oui, Lénine, Trotsky, quand on regarde ces hommes à travers les documents historiques, quand on les regarde à travers leurs discours et leurs écrits, avec leur clairvoyance et leur égarement, avec leur générosité sincère et leurs emportements néfastes, avec leurs excès et leurs démesures, avec leur idéalisme implacable, on ne peut s'empêcher de les trouver attachants, individuellement attachants, comme le sont les Jacobins. Alors ai-je tort? Ai-je tort de me laisser attendrir par la poésie de l'histoire?
Ce sont des hommes attachants. Et Lénine et Trotsky, ce sont bien les deux grands acteurs ou auteurs de la Révolution. Lénine est le plus grand. Lénine est à la fois le théoricien et le dirigeant. Il sait admirablement choisir les hommes, les mettre à leur vraie place. Il est animé d'un optimisme à toute épreuve, optimisme fondé d'ailleurs sur la connaissance des faits et des hommes. Et puis, il est merveilleusement à l'unisson de son peuple. Il le connaît, il prévoit ses réactions, il sait comment lui parler. Ce n'est pas un orateur, si on veut, au sens occidental du mot, mais quand il exprime ce qu'il pense, en phrases familières, émaillées de dictons, de proverbes, sans craindre les répétitions, enfoncez-vous bien ça dans la tête, en arpentant familièrement la scène ou la tribune, il emporte la conviction. Trotsky, lui, est un intellectuel, doublé d'un homme d'action et d'un organisateur. Pas pour rien qu'il est le vrai créateur de l'armée rouge. Il s'est commandé, Trotsky, c'est surtout le chef.
Et Staline?
Ah, Staline. Eh bien, Staline, en octobre, il n'existait guère. Le peuple l'ignorait totalement. Et dans le parti, on savait quand même qu'il avait pris part à des coups de main. Un homme de main. Il avait attaqué au Caucase des convois qui transportaient des fonds. Tout cela pour alimenter, d'ailleurs, la caisse des bolcheviks. Et puis, il venait de signer quelques articles dans la Pravda. C'est à ce moment, justement, en octobre, peu après, qu'il va mettre le pied à l'étrier, en somme, en devenant commissaire aux nationalités, en sa qualité de géorgien. Mais le poste est assez secondaire. Staline, lui, ce n'est ni le théoricien, ni le chef en présence d'une troupe. C'est l'organisateur des coulisses. C'est l'homme qui sait tenir les ficelles et qui, sachant très bien ce qu'il veut, emploie tous les moyens pour y arriver. Tu vois clair, il a une volonté d'acier, Staline. Une énergie indomptable. Peu d'idées et absolument pas de scrupules.
Boris Souvarine, bon historien de la Révolution, dit qu'à cette époque...
Staline n'était pas encore quelqu'un, mais il était déjà quelque chose.
Limité à des besognes administratives, il se tenait dans les coulisses, où, à défaut d'originalité, il se rendait utile par sa persévérance.
Mais Jacques Duclos s'écriait l'autre soir au Veldif, Lénine et Staline, c'est deux géants de la Révolution.
Il y a un géant de trop dans le discours de Duclos, c'est évident. Monsieur Duclos est un homme fin, mais il n'est pas libre de ses propos. Ou bien peut-être qu'il apprend l'histoire de Russie dans les textes sacrés de la théologie stalinienne. L'histoire a été complètement falsifiée par le génial Staline, qui s'est promu lui-même au grade de géant de la Révolution. Voici le manuel d'histoire en usage dans les écoles soviétiques. Histoire moderne, manuel pour la 9e classe de l'école moyenne. Cette classe correspond à la seconde d'Henri IV ou de Louis le Grand. 4e édition, révisée.
Oh, révisée.
Révisée et complétée dans la rédaction de V. Kostkov.
C'est bien un ouvrage classique, officiel.
Oui, patronné par l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de l'URSS, approuvé par le ministre de l'Instruction publique, édité par les éditions pédagogiques d'État. Voici, pour la période qui nous occupe, page 208.
Le gouvernement soviétique ne disposait pas d'une force militaire qui pût contraindre les impérialistes allemands à conclure une paix juste. Dans cette situation-là, Lénine et Staline crurent nécessaire d'accepter les conditions allemandes. Les traîtres Trotsky et Boukharine, prêtant leur concours aux impérialistes allemands, s'attaquèrent furieusement à Lénine. Ils voulaient étrangler le pouvoir soviétique à l'aide des baïonnettes allemandes et, dans cette vue, demandaient de rompre les pourparlers avec les Allemands et de continuer la guerre.
Tout est faux dans ce texte. On enseigne aux écoliers soviétiques une fable grossière. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les traîtres Trotsky et Boukharine étaient les amis et les compagnons de Lénine et le sont restés jusqu'à sa mort. Lénine disait de Trotsky, il n'y a pas de meilleur bolchevique. Après le coup d'État, Lénine et Trotsky avaient les mêmes vues sur la guerre et partageaient les mêmes illusions sur l'Allemagne. Dans les années qui ont suivi la révolution d'octobre, la Russie a été pratiquement gouvernée par Lénine et Trotsky. Le monde entier associait ces deux noms. C'est après la mort de Lénine, en janvier 1924, que l'ascension de Staline a commencé et la disgrâce de Trotsky. Novembre 1927, Trotsky et Zinoviev sont exclus du parti. Janvier 1928, épuration massive, déportation en Sibérie. Léon Trotsky, le chef de l'insurrection d'octobre, l'organisateur de l'armée rouge, le libérateur du territoire, le Lazare Carnot de la révolution russe, prend le chemin de l'exil, comme sous les tsars.
Alors, vous êtes trotskiste ?
Non, nous avons seulement le respect de la vérité historique.
Trotsky. Assassiné à coups de pioche à Mexico le 20 août 1940. Zinoviev et Boukharine, dans la charrette des 16 en 1936, abattus d'une balle dans la nuque dans les caves de la Loubianska.
Et Staline ?
Staline, il se porte à merveille.
Trotsky disait de Staline, la plus éminente médiocrité de notre parti.
À Paris, on célèbre le 35e anniversaire de la Révolution d'octobre sans prononcer le nom de Trotsky. En Russie, on enseigne à des générations d'écoliers que Trotsky et Boukharine étaient des traîtres qui voulaient faire égorger la révolution russe par les baïonnettes du Guillaume.
Oui, c'est à peu près comme si l'on commémorait la révolution française en escamotant Robespierre. C'est comme si l'on enseignait à nos lycéens que Danton et Camille Desmoulins voulaient faire égorger la révolution française par les baïonnettes de la maison d'Autriche. Radiodiffusion française vient de vous présenter un documentaire sonore, La vie en rouge, une production de Jean Castet avec Jean Claudio, Gaëtan Georges, Jacques Mancier, Pierre Olivier, Assistante de production, Marie-Madeleine Dujon. Réalisation, René Villemay. Tous les dimanches, sur la chaîne parisienne, de 10h06 à 10h24, La vie en rouge.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 16 novembre 1952. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'émission qui vient aurait pu s'intituler « Une vie, un naufrage ». La vie d'un navire de guerre qui allait sombrer dès son voyage inaugural, puis être oublié, puis revivre, d'une certaine façon, au cours des siècles suivants, après son renflouage au milieu du XXe siècle. Qu'allait-on trouver dans ce vaisseau historique ? Nous étions en 1976, le 18 septembre 1976, lorsque fut diffusé, dans le cadre des Samedis de France Culture, ce documentaire de Françoise Esteb. Depuis, le musée Vasa a été créé à Stockholm. Une enquête, une chasse au trésor, les trésors du passé, l'immersion, plongeons dans l'aventure.
Séverin Hanson, capitaine. Peter Gjertsson, lieutenant. Johan Larsson, maître canonnier. Göran Mattsson, maître d'équipage. Per Bertilsson, maître de manœuvre. Eric Johnson, intendant d'artillerie. Hans Johnson, capitaine des arsenaux de la flotte. Le dimanche 10 août 1628, le Vasa appareillait pour se rendre à Alfsnabben, dans l'archipel de Stockholm, où il devait, sur ordre écrit du roi, rejoindre d'autres bâtiments et se tenir prêt à faire voile au jour et à l'heure qu'il nous plaira pour tel lieu que nous lui enjoindrons et ordonnerons de gagner. On toua, on remorqua le Vasa qui fut conduit vent debout jusqu'à Södermalm, où l'on hissa le petit hunier, le grand hunier, la misaine et la brigantine. Une centaine de mètres au sud de Beckholmen, une rafale s'abattit de hauteur de Södermalm et le coucha si brutalement que l'eau pénétra à flot par les sabords de la batterie basse. Le Vasa donna de la gîte, chavira et coula en quelques instants, sous voile et sous son grand pavois. « 1628. Une vie descendue d'un bloc dans la mer. Le Vasa, Françoise Esteb, Jean Couturier.
La Suède, au XVIIe siècle, c'était un pays avec une nation avec certaines ambiances de grande puissance, mais encore un pays qui était assez pauvre et sous-développé du point de vue matériel, d'économie nationale, etc.
Monsieur Wingren.
Et avec la guerre, la participation dans la guerre de 30 ans, le roi Gustav Adolphe voulait, pour ainsi dire, placer la Suède sur la carte européenne. Alors ça, c'était des ambitions de l'État, du gouvernement. Et on voulait absolument avoir une flotte puissante. Et les raisons étaient principalement la guerre de 30 ans qui demandait des navires fortement armés, mais aussi des navires pour transporter les troupes suédoises en Allemagne. Alors, le Vasa, c'était un navire de guerre qui a été construit en 1628. La Suède, en somme, c'était donc un pays avec ses ambitions et de grande puissance. On faisait de très grands efforts pour élever le niveau de l'armée et de la flotte. Ça, c'était très coûteux pour la population de la Suède. Alors, on ne pouvait pas, à cette époque-là, on n'avait pas les moyens de payer tout cela nous-mêmes, n'est-ce pas? La guerre de 30 ans, c'était en même temps une manifestation politique de la Suède. On voulait participer pour s'établir comme une grande puissance. Et en même temps, la Suède a eu certains subsides de l'aide économique assez importants, même de la France, d'ailleurs. Donc, la guerre de 30 ans, c'était pas une très mauvaise affaire pour la Suède, du point de vue économique et politique. On voulait se manifester, quoi. Alors, la construction de la flotte, de la marine suédoise, ça, c'était une politique très poussée par le roi Gustav Adolphe. Il voulait créer une flotte suédoise qui pouvait vraiment contrôler tout le Baltique, toute la mer Baltique, parce que l'ambition de la Suède était de non seulement garder ses côtes naturelles, naturellement, ici, mais aussi s'élargir et conquérir la côte allemande du Baltique et pour ainsi dire créer un Mare Nostrum de la mer Baltique. On possédait déjà la Finlande, n'est-ce pas? Et c'est pour ces raisons-là politiques que la Suède s'est établie en Allemagne et qu'on a commencé à participer dans cette guerre-là. Alors ça demandait beaucoup d'efforts et principalement pour la marine. Parce que les troupes qui faisaient la guerre en Allemagne, c'était des troupes achetées, des soldats payés en grande échelle, des Allemands, des Écossais, des Finlandais, etc. Mais la marine, la flotte devait être suédoise, les navires devaient être suédois et les équipes aussi. Et alors pendant ces années, 1610, 1620, 1630, etc. On a construit énormément de navires de guerre. Et le Vasa fut un de ces navires, donc. On était prêt en 1628. On a commencé la construction déjà 2 ans avant. Mais alors ce navire-là devait transporter, outre l'équipage, 300 hommes, soldats, armés, de la Suède jusqu'en Allemagne et en outre de l'artillerie.